En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val-d'Oise qui vous éclaireront sur vos droits chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Ce matin, nous abordons un sujet essentiel, le droit de la responsabilité médicale et le droit du dommage corporel. Que se passe-t-il en cas d'accident de la vie, d'agression ou d'erreur médicale? Quels sont les recours pour les victimes et leurs proches? Nos invités, toutes avocates au barreau du Val-d'Oise, nous éclaireront sur ces questions cruciales et je les remercie vivement d'être venues partager cette matinée avec nous. Bonjour Maître Sophie Aïch.
Bonjour Maître Oulad Ben Saïd.
Vous êtes avocate au barreau du Val-d'Oise. Votre cabinet est situé à Pontoise et il intervient en réparation du dommage corporel et il est dédié aux droits des victimes. Vous assurez la défense des victimes de violences volontaires et involontaires, d'accidents de la circulation, de violences conjugales et de violences sexuelles. Vous êtes membre de l'ANADAVI. Non, pas encore. Vous intervenez également en droit de la famille.
Exactement.
Et c'est un honneur et un immense plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Tous les droits. À vos côtés, Maître Blandine Heurton.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes avocate au barreau du Val-d'Oise. Votre cabinet est situé à Pontoise et vous avez également un cabinet à Paris.
Pas du tout.
Pas du tout. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que...
J'ai tout recentré, je suis exclusivement à Pontoise.
Très bien. Bon, vous êtes spécialisée en droit du dommage corporel, mention spécifique, indemnisation du traumatisé crânien.
Exactement.
Et en droit de la santé.
Tout à fait.
Vous vous consacrez à la défense des victimes.
Exclusivement à la défense des victimes.
Et vous êtes membre de la NADAVI. Très bien. Membre du Conseil de l'Ordre également, du Barreau du Val-d'Oise. Vous avez été en charge de 2010 à 2015 de la commission victimologie. Et depuis 2024, de l'antenne de défense des victimes du Barreau du Val-d'Oise.
Exactement.
Vous êtes également chargé d'enseignement à l'université Cergy-Pontoise, master droit de la santé et de la protection des personnes.
Tout à fait.
C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir dans cette émission.
C'est un plaisir partagé.
Enfin, Maître Delphine Borgne, vous êtes associée du cabinet Judicis, situé à Pontoise et à Paris.
C'est ça, Paris.
Voilà, on avait reçu l'une de vos associées, Maître Linda Deradji, qui était intervenue en droit de la famille, en droit du travail. Et votre cabinet intervient également en droit des assurances et en droit du préjudice corporel.
Exactement.
Vous intervenez pour les victimes, mais également pour les compagnies d'assurance.
Et oui.
Et votre regard est très précieux aujourd'hui pour notre émission du jour. C'est un grand plaisir également de vous recevoir dans l'émission Tous les droits. Bienvenue et merci d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de Tous les droits. Une émission bien sûr à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Pour faire connaissance avec nos invités, je vous propose de les interroger sur leur parcours, sur leur vocation et sur les dossiers qu'elles traitent quotidiennement. Maître Sophie Aïch, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre parcours et nous parler de votre vocation pour ce beau métier ?
Alors oui, Sonia Oulad Ben Saïd, effectivement. Alors moi, j'ai voulu être avocate depuis l'âge de 10 ans. C'est une réelle vocation et je n'ai jamais voulu faire autre chose que justement de la défense. Et là, en l'occurrence, j'ai intégré le barreau du Val-d'Oise à partir de décembre 2008 au sein du cabinet Farge, Collat et Associés, au sein duquel j'étais en charge du pôle pénal accident. J'étais autant aux côtés des auteurs, des victimes, des assureurs et également du fonds de garantie. J'ai ensuite intégré le cabinet de Jean-Louis Malherbe, au sein duquel je suis restée très longtemps, je suis restée une dizaine d'années. Et au sein de ce cabinet, je m'occupais exclusivement du pôle défense des victimes et nous ne traitions exclusivement que des victimes. À partir de 2018, j'ai créé mon cabinet. Je partage mes locaux avec quatre autres confrères qui font toute autre matière. Et mon cabinet est exclusivement dédié à la réparation du dommage corporel et la défense des victimes, et notamment, effectivement, essentiellement, les victimes de violences sexuelles.
Très bien. Donc, cet intérêt pour le droit du dommage corporel, il vous est venu comment? C'est les dossiers, l'expérience, l'intérêt pour les victimes, parce que c'est...
Tout à fait, exactement. À partir du moment où j'ai commencé à être sur le barreau du Val d'Oise, je traitais des dossiers qui étaient envoyés par des compagnies d'assurance et je voyais effectivement une méconnaissance totale non seulement des compagnies d'assurance mais également des magistrats. Et j'estimais que les victimes avaient besoin d'être défendues et d'avoir une juste réparation et équitable réparation. Donc c'est devenu mon combat, littéralement un véritable combat de tous les jours d'assister les victimes au quotidien.
Donc je comprends à demi-mot que vous trouvez que les assureurs font des propositions qui ne sont pas peut-être conformes à la réalité des séquelles subies par vos clients et que les magistrats ne maîtrisent peut-être pas toujours ces matières et que les indemnisations ne sont pas à la hauteur également de ce qui devrait être versé aux victimes.
C'est tout à fait ça, effectivement, toujours critiquer les propositions qui sont faites et effectivement se rapprocher d'avocats qui sont spécialisés de la matière et effectivement préparer solidement son dossier pour le soumettre à des magistrats. Et là aussi, c'est également toute une autre paire de manches.
Et ça ressemble à quoi le quotidien d'un avocat en droit du dommage corporel? Donc il y a des audiences, il y a des expertises. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre quotidien?
Alors, c'est ça. C'est on reçoit les victimes, on prend son temps justement pour qu'elles nous évoquent l'intégralité de des faits dont elles ont été victimes, des conséquences que les faits ont eues sur leur quotidien. On va également les accompagner au cours des mesures d'expertise, on va préparer solidement les dossiers et on va effectivement ensuite les soumettre à des juridictions pour obtenir réparation. Et si nous avons également des compagnies d'assurance, nous essayons de traiter, de négocier avec les compagnies d'assurance.
Donc il y a du droit, enfin des éléments devant la justice. Après vous allez en expertise médicale, donc vous devez quand même avoir des notions en médecine générale ou en médecine plus spécialisée, j'imagine. Ou alors vous êtes assisté d'experts à vos côtés pour vos clients.
Alors effectivement, on maîtrise, lorsque l'on fait la réparation de dommages corporels, on maîtrise les mécanismes de réparation médico-légale et sur des mesures d'expertise, nous pouvons effectivement être accompagnés de médecins conseils selon le domaine d'activité, la spécialité médicale, donc ça peut être des généralistes, des orthopédistes, des psychiatres. Donc selon les besoins spécifiques de la victime, nous faisons également assister de médecins conseils.
Très bien. Bon, je vois que ce sont des matières qui sont extrêmement techniques. Donc, est-ce que vous êtes formé, vous avez obtenu vos diplômes d'avocat, mais ensuite, est-ce que vous avez eu des diplômes spécifiques pour intervenir dans ces dossiers très techniques?
Alors, me concernant effectivement, moi, j'ai effectué un diplôme universitaire en droit de la réparation du dommage corporel, justement pour approfondir la matière. Et ensuite, la formation, c'est aussi une formation du quotidien, se réactualiser, se former, faire évoluer aussi le droit. C'est aussi notre travail à nous, avocats, en réparation de dommages corporels.
Merci pour toutes ces précisions. Je sais que vous êtes une avocate qui est passionnée, qui est très investie. Et je sais que au cours de vos études, vous avez pu faire un mémoire sur la réparation du préjudice des victimes d'agressions sexuelles, qui est devenu un peu votre combat, même au quotidien dans vos dossiers. Actuellement, vous trouvez que c'est pour ce type d'agression, les indemnisations ne sont pas encore suffisantes.
Exactement, tout à fait, effectivement. À la fin, mon sujet d'étude était dédié aux violences sexuelles et à la réparation de ces victimes, parce que ce sont au final des victimes qui sont un peu sacrifiées. On se rend compte que généralement les magistrats ont tendance à méconnaître la réparation également pour ces victimes spécifiques. Et donc, c'est un vrai combat. Encore une fois, je réitère le terme de combat pour accompagner ces victimes. Ça me tient à cœur et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de dédier mon mémoire à ces victimes et qu'aujourd'hui, je mets à profit aussi ce mémoire et mon expérience au profit des victimes.
Et l'actualité nous rappelle que le nombre de victimes d'agressions sexuelles, de viols, voilà, est très important et ça devient une des causes nationales. Donc, nous allons, grâce à vous, pouvoir répondre à des questions qui nous ont été adressées par des auditrices et des auditeurs concernant des agressions sexuelles et on y reviendra du coup au cours de cette émission. Merci Maître Aïch pour cette présentation. Une courte pause musicale et nous nous retrouvons pour poursuivre les interviews de mes invités du jour.
Carry.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes bien dans Tous les droits, une émission consacrée ce matin au droit de la responsabilité médicale et au droit du dommage corporel, avec à mes côtés maître Sophie Aïche, maître Blandine Horton et maître Delphine Borgne, toutes avocates au barreau du Val d'Oise. Je poursuis mes interviews avec maître Blandine Horton. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours ?
Bien sûr, Sonia. Mon cabinet est à Pontoise. Critère essentiel, enfin chose qui me tient à cœur et qui est la plus importante, c'est que mon cabinet, donc, je n'interviens que dans l'intérêt des victimes, dans la défense des victimes. Je suis vraiment, et c'est important, indépendante, et notamment indépendante de toute compagnie d'assurance, et je n'interviens jamais du côté des médecins. Donc j'ai deux spécialisations, la même que Sophia. Je suis spécialisée en droit du dommage corporel avec, comme vous l'avez indiqué en introduction, une qualification spécifique pour l'indemnisation des traumatisés crâniens. Et je suis également spécialisée en droit de la santé. Donc j'interviens dans la défense des intérêts des victimes d'erreurs médicales. Alors vous avez utilisé le terme d'erreur médicale, moi j'utilise plutôt le terme de faute médicale ou d'accidents médicaux. Donc ça recouvre à la fois les accidents médicaux fautifs, quelques exemples pour illustrer cela, l'oubli de la compresse, des diagnostics non réalisés conformément aux données acquises de la science, des prises en charge chirurgicales non conformes aux données acquises de la science. Donc j'interviens dans le cadre de la défense des victimes et pour l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux fautifs, non fautifs, ce qu'on va appeler les aléas thérapeutiques, les infections nosocomiales également, les affections iatrogènes. Enfin, j'imagine qu'on va développer tous ces sujets dans la suite de votre émission.
Très bien. Oui, alors vous avez raison. Moi, j'ai effectivement utilisé un terme très générique d'erreur médicale, mais réponse prouve encore une fois que voilà.
C'est un terme que beaucoup utilisent, erreur médicale, mais il ne s'agit pas effectivement d'erreurs. Les erreurs, on a cette notion que ce sont des choses qui arrivent. Moi, je parle bien de fautes médicales ou d'accidents médicaux non fautifs, le cas échéant.
Et on aura l'occasion d'y revenir.
On en reparlera.
Grâce aux questions que nous avons reçues en nombre des auditrices et des auditeurs. Alors, pourquoi avoir choisi, vous, la profession d'avocat et plus particulièrement dans les matières dans lesquelles vous exercez maintenant ?
Alors, comme Sophia, je vais pas être originale ce matin. C'est une vocation. C'est une véritable vocation parce que également, je n'ai jamais voulu faire autre chose qu'avocat. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on porte en nous. Enfin, voilà, dès le collège, j'étais déléguée de classe et j'avais la défense chevillée au corps. Donc voilà, je pense que vraiment c'est une vocation. Après, la question du choix de la spécialité, de la voie, de la défense des victimes. Je pense que quand on a ce type d'engagement aux côtés des victimes, ce type de combat, parce qu'effectivement c'est un combat tous les jours et pour chacune des victimes, c'est qu'on a dans nos histoires des choses qui nous ont marquées, des parcours de vie qui font que la défense de la veuve et de l'orphelin devient aussi la défense des victimes et surtout la défense des victimes. Donc c'est plus qu'un métier. Voilà, c'est plus qu'un métier, c'est un combat, c'est un choix de vie, pratiquement.
C'est très inspirant, en tout cas. Et j'imagine que ce n'est pas un métier facile, parce que vous traitez quand même avec des drames humains, beaucoup de souffrances. Comment vous gérez ça? Est-ce que, je sais pas, vous mettez aussi vos clients en contact avec des psychologues, des professionnels du sang? Enfin, comment ça s'articule tout ça au quotidien dans votre accompagnement?
Alors, il y a deux questions dans votre question.
Vous avez vu, c'est des questions à tiroir, voilà.
Est-ce que c'est un métier facile? C'est une question qu'on me pose souvent, parce qu'effectivement, on est confronté à la souffrance des victimes. Moi, les victimes, les gens qui viennent me voir à mon cabinet, ils sont atteints dans leur chair, dans leur vie, dans leurs conditions de vie, dans leur âme. C'est vraiment, ils arrivent, ils sont mal, ils sont vraiment mal. Et effectivement, l'idée, c'est de les aider, de les accompagner, de les décharger en partie d'une partie en tout cas de leur souffrance, parce que nous ne sommes pas Wonder Woman, donc d'une partie seulement de leur souffrance, Et puis de les accompagner dans un processus de réparation et d'indemnisation. Alors la réparation, ce n'est pas que l'indemnisation, mais ça en fait partie. Donc effectivement, au quotidien, ce n'est pas facile, mais c'est riche d'expériences humaines. Et c'est porteur, et on se nourrit de ça parce qu'on a envie d'aider les gens. Et quand on y arrive, et quand à la fin d'un parcours nécessairement un peu long, trop long pour les victimes, nécessairement difficile parce que la responsabilité médicale techniquement ce n'est pas facile, mais que les victimes ont ce sentiment qu'on les a entendues, qu'on les a écoutées, qu'on les a reconnues et qu'on les a indemnisées de façon juste, correcte, ben là c'est une immense victoire, hein. Et ça vaut tout l'engagement que l'on met dans la défense des victimes.
Et vous exercez seul ou vous avez un cabinet avec
Je suis débordée parce que j'exerce seul.
Et voilà.
Mais j'exerce seul, c'est aussi un choix parce que ça veut dire que quand les victimes viennent me voir, je les assiste moi du début à la fin. Et c'est vraiment une relation, j'allais dire personnelle, non pas personnelle, mais très individualisée. Et je suis leur unique interlocuteur et je crois que pour elles, c'est important également.
Oui, il y a un fort
intuition. C'est un vrai choix, en fait.
Oui, c'est un choix.
Oui, c'est un choix.
Mais il y a beaucoup d'intuition personnelle dans vos...
Il n'y a que
ça, d'ailleurs.
Il n'y a que ça. Je crois que c'est vraiment très important, cette relation de... Bah, de toute façon, la relation de confiance avec l'avocat, elle est fondamentale. Mais peut-être plus encore dans ces spécialités, dans ces domaines d'activité, on accompagne vraiment les gens... les victimes dans des moments difficiles et douloureux. On a évoqué tout à l'heure avec Sophia le moment de l'expertise médicale. C'est un moment clé, une étape importante dans le processus de réparation, d'indemnisation, de reconnaissance de responsabilité. Mais c'est aussi une épreuve pour les victimes. Donc il faut être préparé, il faut être bien accompagné. Voilà, donc la relation de confiance, l'intuition personnelle, évidemment qu'il est important dans ces moments-là.
Et vous mettez votre expérience donc au profit d'étudiants puisque vous enseignez, vous avez créé un ouvrage aussi sur l'évaluation du dommage corporel et vous êtes membre de l'ANADAVI. Alors oui. J'en ai parlé, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot cette...
Alors l'ANADAVI, c'est l'Association nationale des avocats spécialisés en dommages corporels, donc qui réunit des avocats qui justifient justement de cette spécialisation en droit du dommage corporel. Et nous signons une charte d'éthique, notamment dans laquelle nous nous engageons à certains principes, dont celui de n'intervenir qu'exclusivement dans l'intérêt des victimes, hein, qu'il n'y ait pas de mélange de genre. Nous n'intervenons jamais pour les compagnies d'assurance, donc nous n'intervenons que pour les victimes. Et c'est un gage de compétence. C'est un gage de compétence et d'engagement aux côtés des victimes. Ce qui est rassurant pour les victimes aussi lorsqu'elles cherchent des avocats spécialisés, de se dire que l'ANADAVI fait partie des critères, en fait, parmi d'autres, de reconnaissance de compétence.
Oui, je vous remercie de le préciser parce que je le fais à chaque émission. Je rappelle toujours aux auditrices et aux auditeurs que pour trouver un avocat, on peut se rendre sur le site du barreau des avocats de Barreau du Val-d'Oise, qui est un site internet dans lequel on peut chercher les avocats par lieu d'exercice, mais également par compétence et par spécialisation, parce que tous les avocats ne sont pas spécialisés.
Tout à fait.
Vous pourriez nous rappeler le principe de la spécialisation ?
Alors, les avocats peuvent avoir ce qu'on appelle des activités dominantes, c'est-à-dire ils ont une activité généraliste, mais avec des activités dominantes, activités dominantes n'étant pas synonyme de spécialité, parce que les avocats qui affichent des mentions de spécialisation, donc en ce qui me concerne le droit de la santé et le droit du dommage corporel, nous avons passé des examens qui sont validés par le CNB, qui est l'instance nationale de contrôle, en tout cas sur cet aspect-là, des avocats et qui justifie d'une véritable mention de spécialisation. Donc c'est vraiment là aussi, même si je me répète un peu, un gage de reconnaissance et de compétence.
Bon, je vous remercie pour ces précisions et d'avoir partagé avec nous votre parcours et votre conviction et votre vocation. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant d'interviewer notre dernier invité, Maître Delphine Borgne. À tout de suite. Girl, I can see you stressing. Woman hit you with a helpful lesson. It ain't up to you who you feel into when you got a pussy that you need to attend to. You got one dude smart and funny, making you laugh, do sweet as honey. But if he's so brainy, tell me why can't he figure out a way to put a thrill in your pants. Then there's the hot dude, the not so smart dude. Motherfucker so lit when he bringin' that shit, put you in that need to hit your clip move. So just quit that funny boy dreaming, cause there's laughing, then there's creaming. Does he make your pussy wet or dry? That's the only question in a pussy don't lie. Laws of attraction, don't care about nothing but your carnal satisfaction. It's all in the pussy and a pussy don't lie. Laws of attraction, got just that feeling cause your brain is out of action. It ain't me who made the system. Lady pussy, she's filled with wisdom. She and Dick got their own damn mind, calling all the shots since the dawn of time. You see, everybody got their should, but baby that should don't give you that wood. So girl, take a little bit of that pressure off. You gon' land with the man that gets you off.
And a pussy don't lie.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes dans l'émission Tous les droits, consacrée aujourd'hui au droit de la responsabilité médicale et au droit du dommage corporel. Et nous poursuivons notre émission avec Maître Delphine Borgne. Delphine Borgne, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours en quelques mots et nous expliquer comment vous êtes devenue avocate ?
Alors, comme mes consoeurs, c'est pareil, c'est une vocation. Sûrement collège également. J'ai peut-être pas aussi jeune que Sophia, peut-être pas 10 ans, mais collège au moins. Et voilà, donc c'était... en plus, je viens d'une famille où mes parents sont enseignants tous les deux. Et au début, ils m'ont un peu regardée comme une extraterrestre. Ils n'ont pas trop compris ce choix et ils y croyaient pas, je pense. Donc voilà, donc c'est une vraie vocation. Donc après, je suis allée à la fac de droit de Cergy. J'ai redoublé une année parce que voilà, c'est difficile les études de droit, je trouve, donc c'est pas évident, mais bon, faut s'accrocher. Et ensuite, j'ai fait mes stages immédiatement sur le barreau du Val d'Oise. J'ai prêté serment directement au barreau du Val d'Oise en janvier 2005. Donc j'ai fêté mes 20 ans là en janvier cette année.
Bon anniversaire.
Merci. Et ensuite, j'ai intégré le cabinet donc de Maître Flacelière et Bourrier, où j'étais collaboratrice. Et ensuite, je suis restée collaboratrice une dizaine d'années, un peu moins. Et ensuite, je me suis associée avec Marc Flacelière, donc qui était mon ancien maître de stage, du coup. Et voilà, donc on a un cabinet aujourd'hui qui s'appelle Judicis. On a une troisième associée qui est Linda Deradji, qui est déjà venue faire cette émission avec vous. Donc on est tous les trois et c'est vrai que moi j'aime bien ce côté d'avoir des associés, d'être à plusieurs, parce que ben là on échange. Alors on n'a pas du tout les mêmes domaines, donc on est très complémentaires. Donc ça c'est bien aussi parce que du coup chacun garde son propre domaine et ça je trouve ça assez intéressant. Et on est du coup un cabinet très généraliste. On a des clients institutionnels. Et alors moi, contrairement à Sonia et Blandine, je suis du côté obscur parce que j'interviens pour les compagnies d'assurance. Et on intervient aussi parfois pour les auteurs. On ne fait pas que de la défense des victimes. Donc voilà, on a les deux aspects. C'est pareil, je trouve ça intéressant aussi. On est aussi parfois en tribunal correctionnel, pour des gens qu'on commis, qu'on renversé, qu'on fait, comme l'a dit Blandine, des fautes médicales. Ça nous arrive aussi. On est vraiment des deux côtés. Et c'est assez enrichissant parce que, des fois, on peut appréhender l'ensemble, en fait. Moi, j'aime bien ces deux aspects.
Oui, c'est important.
Ça fait partie du. Vis-à-vis de mon métier, je pense que c'est j'aime bien avoir les deux. J'aurais du mal à aujourd'hui faire que l'un que des auteurs ou que les victimes, ça se complète.
Oui, et puis donc vous connaissez bien aussi le mécanisme, les politiques des compagnies d'assurance, ce qui peut d'ailleurs peut-être être intéressant quand vous intervenez de l'autre côté, et à l'inverse, vous avez une vision globale des choses. Alors, vous l'avez rappelé, vous aviez été collaboratrice, puis vous êtes devenue associée. Je le rappelle souvent à l'endroit des auditrices ou des auditeurs qui peut-être poursuivent des études de droit et qui veulent devenir avocat. C'est vrai qu'en général, on est collaborateur, puis après, on devient associé ou on s'installe. Donc, vous avez fait le choix de vous associer avec vos trois autres associés. Et vous, donc, au sein du cabinet, donc vous gérez les dossiers de dommages corporels, donc tantôt du côté des victimes ou tantôt des compagnies d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien? Alors, parce que du coup, vous, quand vous intervenez devant les juridictions, vous êtes aussi en expertise du côté des assureurs. Comment
alors,
ça se passe?
Oui, on est alors du côté des assureurs. En général, ils envoient leurs propres experts. Donc nous, on intervient s'ils nous demandent, s'ils veulent avoir un avis sur des dossiers vraiment très particuliers où il y a un fort enjeu pour eux financier. Donc là, on peut être en soutien effectivement de leur expert, de leur médecin expert, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Et sinon, on intervient, évidemment, quand on est aux côtés des victimes, on intervient parce qu'en fait, ces mêmes compagnies d'assurance ont ce qu'on appelle la protection juridique. Donc en fait, elles nous confient leurs assurés qu'il faut défendre dans plusieurs contextes, ça peut être bien évidemment pour du dommage corporel ou pour autre chose, des fissures sur une maison, ça peut être c'est assez varié. Donc on fait des expertises, on fait les audiences beaucoup, parce que du coup ça fait beaucoup d'audiences en fait sur Pontoise, et aussi comme on a un cabinet secondaire à Paris, parfois on est aussi vraiment sur un peu l'Île-de-France, donc c'est vrai que ça prend du temps.
Oui, donc c'est ça, vous avez un cabinet, vous êtes une interbarreau, donc oui. Il y a un cabinet à Pontoise et un cabinet à Paris. Oui. Alors vous avez parlé de deux choses sur lesquelles je voulais revenir, le principe de la protection juridique. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je rappelle régulièrement dans le cadre de cette émission. On ne pense pas souvent à vérifier si on a une protection juridique. C'est quand même un produit qui est beaucoup vendu dans le cadre des crédits immobiliers, des assurances habitation, qu'on recommande souvent en tout cas nos clients de prendre, ou en tout cas de vérifier s'ils en ont, parce que c'est ce principe-là qui fait que la protection juridique peut prendre en charge une partie ou la totalité des frais d'avocat et des frais d'expertise judiciaire et de consignation des frais d'expertise judiciaire quand il faut aller devant un expert. Donc vous travaillez aussi avec les protections juridiques.
Oui, tout à fait. Et quand on travaille avec protection juridique, pour le coup, on a une liberté parce que on travaille qu'avec le client, et c'est très important, notamment sur les frais d'expertise, parce que du coup, la protection juridique fait l'avance des frais d'expertise. Donc quand on est sur des sommes qui peuvent être des frais de consignation à hauteur de 1 500 euros, c'est la protection juridique qui l'avance, et c'est pas le client qui doit avancer cette somme-là sur ses frais personnels après d'en obtenir éventuellement le remboursement. Mais c'est au bout de la procédure, au bout de plusieurs années, parce que comme l'a rappelé Blandine, souvent c'est long, en fait, l'indemnisation du préjudice corporel, c'est des procédures qui sont longues. Donc d'avoir vraiment cette prise en charge complète des frais de consignation, c'est très important.
Oui, des procédures longues, coûteuses, oui. Avec des enjeux financiers qui peuvent être très très importants. C'est quand même des matières où il y a des enjeux conséquents. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que beaucoup d'avocats entre guillemets s'y mettent sans avoir forcément les compétences ou les qualifications. D'ailleurs, Maître Blandine Horton et Maître Sophia Hich, vous qui intervenez du côté des victimes, est-ce que vous pouvez, alors sans rentrer dans les détails, mais nous dire comment vous facturez, quel est le principe pour vous, compte tenu des frais qui doivent être engagés, est-ce que vous avez des honoraires de résultat, comment ça fonctionne?
Alors, le principe, effectivement, c'est que l'avocat, en tout cas c'est ma pratique, on fait en sorte d'adapter nos honoraires à la réalité du travail à effectuer, ça c'est une première chose, mais également à la situation de la victime. C'est-à-dire que les honoraires doivent être adaptés au travail à effectuer, mais également à la situation de la victime. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, la question de la protection juridique, elle est cruciale. Et c'est vrai que souvent, je reçois des victimes qui ignorent qu'elles ont une garantie de protection juridique parce que, parfois, sans le savoir, on a dans notre contrat d'assurance habitation ou au titre de notre carte bancaire une protection juridique, une clause de protection juridique qu'on ignore. Donc c'est vraiment le premier réflexe à avoir lorsqu'on envisage une procédure. Après, il est important que l'avocat, et c'est également ma pratique, soit extrêmement clair et transparent dans sa facturation des honoraires. Donc très très concrètement, moi ma pratique c'est que je propose, lorsque je reçois les victimes au cours du premier rendez-vous, on évoque extrêmement clairement la question de mes conditions d'intervention. Et je propose une convention d'honoraires avec des honoraires de diligence, mais également de résultats, qui est un principe que tous les avocats en droit du dommage corporel applique. Et les honoraires de diligence correspondent, en ce qui me concerne, parce que chaque avocat a sa pratique, en la fixation de forfaits de procédure qui sont là aussi compatibles avec le travail à effectuer, mais également avec la situation de la victime. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'avez également indiqué, l'enjeu indemnitaire peut être souvent très important. Alors, il y a l'enjeu indemnitaire, mais en fait, ce sont même des enjeux de vie, hein, parce que cette indemnisation, pour bon nombre de victimes, notamment les victimes qui sont les plus gravement atteintes dans leur intégrité physique, cette indemnisation, elle doit servir à financer des besoins en assistance humaine, l'adaptation d'un logement, l'adaptation d'un véhicule. Donc, on parle d'indemnisation, mais moi, j'aime rappeler que cette indemnisation, c'est la réalisation d'un projet de vie. Donc, les enjeux sont extrêmement importants. Le travail qui va avec doit l'être également, parce qu'on le dit depuis le début de votre émission, mais l'indemnisation, la poursuite d'une juste et d'une juste indemnisation et d'une réparation intégrale, c'est un vrai combat. Voilà.
C'est très clair.
Alors moi, je pratique de la même manière que Blandine, avec une particularité pour les victimes en matière criminelle, les victimes de viol, c'est qu'elles ont en fait le bénéfice de l'aide juridictionnelle de droit. Et donc, à partir du moment où, en tout cas au sein du cabinet, une victime a le bénéfice de l'aide juridictionnelle de droit, on dépose un dossier et éventuellement, on peut faire régulariser ce qu'on appelle une convention de retour à meilleure fortune. Mais en tout cas, pour ces victimes et ces victimes spécifiques, elles ne doivent pas être inquiétées par un souci financier, dans la mesure où effectivement, il y aurait une prise en charge de toute façon des frais honoraires par l'État au titre justement de l'aide juridictionnelle.
Merci pour toutes ces précisions, puisque ça fait partie aussi des choses qu'on entend souvent. On fantasme le coût d'un avocat, donc parfois on fait l'économie d'un avocat alors que les dossiers mériteraient que les clients soient accompagnés.
Oui, merci. Alors si je peux rajouter un petit point sur ce que vous venez de dire, faire l'économie d'un avocat, alors je prêche un peu pour ma paroisse, j'avoue, mais faire l'économie d'un avocat, c'est jamais une économie. Moi j'ai un exemple enfin très simple. Le nombre de victimes que je reçois à mon cabinet et qui viennent avec une proposition d'une compagnie d'assurance, qui n'est pas défendue par Delphine évidemment, mais qui viennent avec une proposition de compagnie d'assurance, j'interviens. Alors, mais la proposition au final renégociée par mes soins ou obtenue après un processus judiciaire n'a rien à voir avec la proposition de la compagnie d'assurance. Et les victimes, lorsqu'elles règlent mes honoraires, j'avoue que c'est un vrai plaisir, pas de percevoir les honoraires, mais c'est un plaisir de voir qu'elles sont contentes de régler ces honoraires parce qu'elles s'y retrouvent très largement. Enfin, c'est un constat de fait. Donc, faire l'économie d'un avocat, je crois que c'est encore une fois pas une économie et que effectivement, c'est un peu une image de la profession qu'ont malheureusement les justiciables, mais également les victimes, de se dire je vais pas aller voir un avocat, ça va me coûter trop cher. C'est un mythe. Il faut vraiment dépasser cette crainte, cette image d'Épinal qui ne correspond pas à une réalité et se faire assister pour être tout simplement, justement, indemnisé.
Merci pour toutes ces précisions. Et c'est l'intérêt de cette émission aussi, c'est donner la parole aux avocats pour qu'ils parlent de leurs pratiques et qu'on démystifie certains préjugés. Donc je vous remercie de l'avoir fait ce matin. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant de répondre aux nombreuses questions des auditrices et des auditeurs adressées à mes invités du jour en droit de la responsabilité médicale et du droit du dommage corporel. À tout de suite.
Il rit plus comme avant. Je sais c'est la même personne, mais quelque chose a changé. Elle a les mêmes yeux qu'avant. Pourtant quand elle me regarde, je sens quelque chose a changé. Et toi penser à une autre, et toi être là depuis plein de choses. Nous c'était trop beau pour elle. Penser à un autre, le joueur qui sait jouer du piano et qui a pas peur de ses mots. Qu'est-ce qui a changé? Nos discussions sans fin en ont désormais besoin. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Et toi penser à une autre, et toi être allé plus plein de choses. Nous c'était trop beau pour être vrai. Et toi penser à un autre, le joueur qui sait jouer du piano et qui a pas peur de ses mots.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous êtes bien dans Tous les droits, une émission consacrée ce matin au droit de la responsabilité médicale et au droit du dommage corporel. Et nous poursuivons les questions des auditeurs avec Maître Sophia Aïch. Une nouvelle question à votre attention. Une auditrice nous écrit « J'ai été victime d'un viol par un de mes collègues qui doit être jugé prochainement. Je n'ose pas demander réparation car je n'ai aucune séquelle physique mais je suis en dépression depuis les faits et je n'arrive plus à avoir de relations sexuelles avec mon compagnon. Quels conseils pourriez-vous me donner ?»
Alors, chère auditrice, je commencerai par vous dire « Osez demander réparation car si l'indemnisation est bien un tabou, elle n'en est pas moins un droit. » Et effectivement, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, une victime de viol, effectivement, elle n'a pas de marque physique. En revanche, elle a des marques, des traumatismes totalement invisibles. Alors, on se rend compte, on n'a pas de difficulté à indemniser un bras cassé. Par contre, une femme qui a été violée, ça pose un peu plus de difficultés. Et là, en l'occurrence, ce que je recommanderais à notre auditrice, c'est bien évidemment de solliciter une expertise. Et cette expertise, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle a l'aide juridictionnelle ou une protection juridique et qu'elle la sollicite devant la cour criminelle, eh bien, il y aura une prise en charge. Donc, qu'elle ne soit pas inquiète. Et si elle sollicite cette expertise devant la CIVI, donc la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, et bien là aussi il y aura une prise en charge par l'État. Donc il faut utiliser les outils qui sont à disposition et notamment qu'elles se fassent expertiser. Un expert va donc faire une évaluation de l'intégralité de ces séquelles et on se rend compte également que qu'en matière de viol, alors moi qui ai l'habitude d'en faire, et bien les évaluations par les experts tournent généralement pour un déficit fonctionnel permanent, donc le handicap permanent après l'événement qu'elles ont subi, eh bien, il est entre 10 et 15%, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et surtout, là, l'auditrice a l'air d'évoquer que les faits ont été commis par son collègue. Donc, potentiellement, pourquoi ne pas envisager et voir, explorer s'il n'y a pas une incidence professionnelle. Elle évoque également un préjudice sexuel. Donc, ce préjudice sexuel n'est pas négligeable, surtout qu'il va impacter également son compagnon. Donc, son compagnon qui lui-même a la possibilité de se faire indemniser parce que lui aussi, en qualité de victime indirecte, eh bien, il subit des préjudices, notamment il voit sa compagne souffrir, donc il a le droit de demander un préjudice d'affection, également la prise en charge des troubles dans les conditions d'existence, et notamment via ce préjudice sexuel. Et là, en l'occurrence, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a un tabou sur l'indemnisation des victimes de viol qui osent solliciter des réparations, et on se rend compte que c'est un peu le chiffrage de la honte. Et là, en l'occurrence, même devant les cours criminelles, on se rend compte aussi qu'il y a des sortes de forfaitisation, comme il y a une tarification des barèmes officieux qui sont élaborés par les juridictions, et des juridictions qui forcent, littéralement, qui forcent à mettre en place ces barèmes. Alors maintenant, on voit aussi des indemnisations pour un viol entre 25 et 30 000 euros, qui peut être modulé selon les circonstances du viol. Et ça, c'est inacceptable. C'est littéralement inacceptable. Il faut que les victimes aient le réflexe de se faire expertiser, évaluer et qu'elles soient réparées, justement, intégralement de l'ensemble des conséquences qu'elles ont subies. Alors moi, je vous prendrai l'exemple au sein du cabinet d'une jeune femme que j'avais accompagnée. Elle avait été victime dans son enfance, à l'âge de 5 ans, de viol et d'attouchement sexuel de la part de son oncle. Elle a porté plainte 15 ans après les faits. Alors le procès sur le plan pénal devant la cour criminelle s'est bien déroulé puisque finalement il y a une culpabilité et une peine qui a été prononcée à l'encontre de son oncle. En revanche, sur le volet civil, là ça a été catastrophique. La cour criminelle a totalement balayé les demandes indemnitaires que nous avions formulées pour indemniser cette victime uniquement à hauteur de 2500 euros, et je répète bien 2500 euros pour des viols qui s'étaient déroulés sur plusieurs années. Alors forcément, nous avons interjeté appel de cette décision, et devant la cour d'appel de Versailles, eh bien, nous avons été entendus, nous avons heureusement été accueillis par une juridiction et une magistrate qui maîtrisait la réparation du dommage corporel, et devant cette juridiction, nous avons obtenu plus de 80 000 euros. Nous sommes donc passés de 2500 euros à 80 000 euros. Et là, en l'occurrence, bah, nous avons élaboré une stratégie qui a été, puisque nous avions un débiteur qui était insolvable, bah de nous retourner et d'aller saisir la CIVI, donc la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Là, devant cette juridiction, notre adversaire n'est plus l'accusé, mais c'est le fonds de garantie qui finalement est un débiteur solvable. Et comme cette juridiction est autonome, eh bien nous avions soumis à nouveau nos demandes d'indemnisation. Et là, cette juridiction nous a également entendus et nous a accordé et a alloué à cette jeune femme qui avait été victime dans son enfance, plus de 113 000 euros d'indemnisation. Donc encore une fois, je dirais à notre auditrice, eh bien osez demander réparation, osez vous et votre compagnon aller demander réparation, c'est votre juste droit.
Merci pour ces précisions. L'exemple que vous avez indiqué est absolument stupéfiant. Donc, on passe d'une indemnisation de 2000 euros à plus de 113 000 euros. Alors, d'où l'intérêt de se rapprocher d'un avocat pour être accompagné dans ce type de cas. Maître Blandine Horton, vous vouliez réagir
sur
cette question.
Oui, Sonia. Effectivement, je voulais réagir au propos très juste de Sophia qui a évoqué des indemnisations forfaitisées et barémisées. Alors, il faut vraiment que vos auditrices et vos auditeurs sachent que les barèmes d'indemnisation n'ont aucune valeur. Il n'existe aucun barème d'indemnisation qui s'impose à la victime. Je crois que c'est très important de vraiment marteler cette idée parce que bon nombre de fois, je reçois à mon cabinet des victimes qui ont eu cette tentation bien légitime de faire des recherches sur Internet, sur leurs droits, sur le montant de l'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, et qui viennent me voir en me disant « mais je comprends pas, parce que j'ai vu que les souffrances endurées évaluées de telle façon, c'est 5 000 euros, j'ai vu que mon préjudice esthétique il sera indemnisé à tel montant, parce que dans les barèmes, eh bien c'est tel montant qui est proposé. » Alors, rappelons-le, les barèmes d'indemnisation, autrement qualifiés de référentiels d'indemnisation, ce qui n'est juste qu'une hypocrisie, hein, référentiel, barème, c'est la même chose, ne s'imposent pas, n'ont aucune valeur réglementaire, et les seuls principes qui régissent l'indemnisation des victimes, c'est celui de l'individualisation de l'indemnisation et celui de la réparation intégrale. Donc, véritablement, Sonia, vous l'avez compris, les barèmes, ça m'énerve.
Les barèmes, c'est non.
Les barèmes, ça m'énerve. Les barèmes, c'est non. Et surtout, si vous êtes victime. Et ça, c'est pas une hypothèse d'école. Vous êtes victime d'un accident de la circulation. Vous vous retrouvez seul à négocier, enfin, à négocier, à discuter, à vous laisser imposer une indemnisation par la compagnie d'assurance qui a son propre petit barème, n'est-ce pas, Delphine? Ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez pas, parce que renégocier ou porter devant une juridiction, cette indemnisation, elle ne sera plus barémisée, elle sera individualisée. Et vraiment, c'est pas juste une question intellectuelle. Ça se ressent sur l'indemnisation qui sera plus juste et plus cohérente par rapport à votre situation. Donc vraiment, ne vous laissez pas imposer des indemnisations barémisées.
Merci beaucoup pour ces précisions, ces rappels, ces recommandations. Et voilà, encore une fois, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir des avocates qui interviennent de manière récurrente dans ce type de dossier. Et je le répète et je le martèle à chaque émission, adressez-vous à des avocats compétents dans la matière qui sauront vous accompagner sur ces dossiers très techniques avec des indemnisations qui doivent être individualisé. Je vous propose de poursuivre les réponses hein, aux questions des auditeurs avec Maître Delphine Borgne. Alors, nous avons reçu des questions relatives à ce que j'appelle des accidents de la vie. Une première auditrice nous a appelé et nous a laissé un message en nous indiquant que elle avait été percutée à 2 reprises par un chien dont le propriétaire était à côté. Elle est tombée, elle s'est blessée, elle est allée aux urgences. Alors, elle avait pas de fracture, mais des gros hématome, elle doit passer une IRM et elle a demandé au propriétaire du chien qu'il fasse une déclaration à son assurance. Elle a fait aussi un courrier à son assurance. Elle a repris attache avec son assureur qui lui précise que c'est l'assurance du propriétaire du chien qui doit faire le nécessaire. Et cette auditrice nous demande quels sont ses droits, comment peut-elle se défendre au mieux parce qu'elle est très inquiète pour ses démarches administratives et pour sa santé physique.
Merci Sonia. Alors effectivement, les soucis avec les chiens, c'est on en a beaucoup dans nos dossiers. On a quand même quelques dossiers qui parfois vont même jusqu'à la morsure ou avec des amputations. Notamment un dossier où une dame en fait s'était interposée parce que son chien se faisait attaquer par un autre chien qui s'était évadé de sa propriété, hein, donc qui était sur la route. Et elle a voulu s'interposer, défendre son chien et elle s'est fait arracher la phalange du pouce, fait sectionner la phalange du pouce gauche. Donc on est parfois sur des choses qui peuvent rapidement en fait être assez graves. Alors là, dans le cas de votre auditrice, on est c'est moins effectivement impressionnant, mais on voit qu'elle a quand même chuté. Donc elle peut bien évidemment avoir des blessures. Alors moi, ce que je lui conseillerais, alors l'assurance, effectivement, le propriétaire du chien a l'obligation de faire une déclaration à son assureur multirisque habitation. C'est sa responsabilité civile qui va être engagée. Ça, il devra de toute façon réparer les dommages. Alors, ce que je lui conseille, c'est de faire une expertise. En plus, elle a également fait la déclaration auprès de son assureur. Donc, il y a une expertise déjà amiable et contradictoire qui peut être mise en place par les deux assureurs. Donc, comme ça, son assureur à elle peut aussi envoyer son médecin expert. Donc, après, les médecins vont donc pouvoir constater. Alors, il n'y a pas de fracture, mais il peut y avoir quand même une gêne encore. Il peut y avoir, peut-être un arrêt de travail. Plein de choses que les médecins pourront chiffrer. Et sur la base de son rapport, ils vont l'assureur, en tout cas, du propriétaire du chien, va proposer une indemnisation. Et là, effectivement, elle peut s'appuyer sur son propre assureur qui peut lui donner des conseils, parce que, évidemment, les assureurs ont des barèmes quand ils sont obligés d'intervenir en défense. Mais ils peuvent aussi, quand ils sont pour leurs assurés et côté victime, proposer aussi des indemnisations. Si elle n'est pas satisfaite de ces indemnisations, effectivement, elle peut faire appel à un avocat. Blandine l'a très bien rappelé tout à l'heure. Faut pas, effectivement, aller vers cette indemnisation barémée systématique. Si elle considère ce qu'on lui propose n'est pas suffisant, elle peut tout à fait faire appel à un avocat, même au cours d'une simple consultation juridique, un simple entretien, où elle peut arriver avec son rapport d'expertise et expliquer, ben voilà, moi l'assureur me propose ça, est-ce que vous pensez que c'est correct? Voilà, ça peut être une approche d'aller faire cette consultation chez un avocat. Encore une fois, à titre d'exemple, moi, dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure, alors c'était certes une phalange du pouce sectionné, mais on était quand même arrivé sur une indemnisation qui était pas loin des 80 000 euros. Hein. Voilà, parce que voilà, c'était bien évidemment dramatique pour la personne, alors qu'elle avait eu quand même une phalange sectionnée.
Merci pour ces précisions. Donc on fait jouer les compagnies d'assurance, des expertises amiables sont organisées, des négociations s'ouvrent entre assureurs, et si on n'est pas satisfait, on peut aller sur le terrain judiciaire, n'est-ce pas, Blondine Horton?
Oui, si on n'est pas satisfait, on va avoir un avocat.
Voilà, voilà.
C'est ça.
On va au judiciaire avec un avocat.
Avec un avocat.
Merci pour ces précisions. Une nouvelle pause musicale avant de retrouver nos invités pour l'émission Tous les droits. Yeah.
Cause I bought the car, hop in the whip with me, baby, I raise up the partition. Now make a wish that's worth wishing, then come and get what you're wishing for. And you ain't gotta deal with them suckers no more.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Vous écoutez Tous les droits, une émission consacrée ce matin aux droits de la responsabilité médicale et aux droits du dommage corporel, et nous poursuivons notre émission avec Maître Delphine Borne. Une nouvelle question pour vous concernant un autre accident, une chute dans un supermarché. Un auditeur nous a écrit pour nous dire que sa femme avait fait une chute dans un supermarché, qu'elle s'est pris les pieds dans une lanière de palette que le magasin avait laissé traîner. Elle s'est cassé les deux coudes. Après sa rééducation, la situation a été déclarée par son médecin comme consolidée mais avec des séquelles et elle est toujours limitée dans les gestes de la vie quotidienne. Alors il nous indique que le magasin a attesté par écrit l'accident, que son assurance est mise en relation avec l'assurance du magasin pour les dédommager, qu'ils ont rendez-vous avec un médecin expert mandaté afin qu'il puisse statuer sur leur indemnisation. Et la question de l'auditeur est la suivante. Nous souhaiterions savoir si les deux assurances ne pourraient pas se mettre d'accord à notre insu afin de nous dédommager à minima. Nous souhaitons également savoir de quel ordre de grandeur pourrait être l'indemnisation. Et est-ce qu'il faut prendre un avocat? C'était sa question également.
Alors, non, effectivement, alors les deux assureurs ne pourront pas se mettre d'accord entre eux. C'est absolument impossible. Et bien évidemment qu'il faut absolument garder la main sur cette action, sur cette réparation de son préjudice. Et il peut pas être question que ça se fasse sans l'accord de la personne et sans avoir un droit de regard. Alors là, la responsabilité du supermarché est clairement engagée puisque vous avez, en fait, on est sur une responsabilité civile et le fait que la palette ait été laissée en plein milieu du supermarché, on considère qu'elle n'aurait pas dû être là. Donc elle a une place anormale et donc c'est ce qui fait que sa responsabilité est engagée. À titre d'exemple, moi j'avais eu un dossier comme ça d'une dame qui va voir sa fille à la clinique, donc elle est très pressée. Le sol à ce moment-là est glissant parce qu'il vient d'être nettoyé, donc elle se précipite un peu. En plus, elle était en talons aiguilles, donc elle voilà et elle tombe. Le tribunal avait considéré donc que bien évidemment le sol étant glissant, ça rendait voilà ça engageait la responsabilité de la clinique, mais il avait également retenu quand même une faute de la victime. Alors pas parce que madame marche avec des talons aiguilles en allant à la clinique, mais tout simplement parce qu'en fait à ce moment-là, il y avait des panneaux indiquant que le sol était mouillé, plusieurs salariés également de la clinique lui ont indiqué que le sol venait d'être lavé, qu'il fallait faire attention et qu'elle n'en a pas tenu compte. Donc du coup dans ce cas-là, son droit à indemnisation a été quand même réduit de 50%. Voilà. Là, dans la question, dans le cas qui nous occupe, ce ne sera pas du tout le cas. Hein. On voit qu'il n'y aura pas de faute de la victime qui pourra être indiquée. Donc, il y aura 100% de la responsabilité qui sera reconnue. Il faut bien évidemment faire une expertise. Alors, s'il y a déjà un rapport d'expertise amiable et contradictoire qui a été fait par les assureurs, ça peut être un bon début. Mais là, moi, je conseille quand même clairement d'aller sur une voie judiciaire, de prendre un avocat, de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Parce qu'on voit quand même qu'on a les deux coudes qui sont cassés, on va avoir des séquelles, on va avoir un déficit fonctionnel qui sera important. Donc là, à mon sens, c'est ce type de dossier, il ne faut pas hésiter à aller voir un avocat et à aller sur une procédure judiciaire. En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, on pourrait, je pense, alors en plus c'est consolidé, mais il peut y avoir quand même des frais futurs, il peut y avoir une rechute. On serait sur un montant d'indemnisation, puis on est sur des fractures, hein, parce que les deux coudes cassés, qui peut... Alors c'est difficile de donner des fourchettes, et Blandine ne va pas aimer ça, mais je pense qu'on peut être entre 80 000 et 100 000, peut-être plus avec un avocat qui sera particulièrement diligent et avec une vraie spécialité dans ce domaine.
Moi, je dirais plus.
Voilà. Blandine Horton hoche de la tête, donc elle s'est exprimée. Ouais. Elle dirait plus.
Non, voilà. Je dirais plus. Et puis, c'est surtout, enfin, je veux pas marteler toujours la même chose, mais c'est tellement important l'individualisation, c'est-à-dire que deux coudes cassés chez une victime, chez une victime qui s'appelle Marie, bah, c'est pas deux coudes cassés chez une victime qui s'appelle Germaine. Les conséquences de deux coudes cassés dans la vie de chacun d'entre nous peuvent être très différentes selon nos conditions de vie, nos responsabilités familiales, nos métiers, etc. Donc, je comprends que Delphine donne un chiffre parce que quand les victimes viennent nous voir dans nos cabinets, elles veulent savoir combien et c'est normal. Mais un bon avocat, en tout cas un avocat honnête, ce que nous sommes tous, ne pourra pas donner de chiffres parce que si on fait bien le travail, il y a des étapes à suivre d'expertise, d'évaluation, de discussion. Vraiment, c'est un travail de longue haleine où il va nous falloir connaître la victime et c'est au bout d'un processus qu'on va avoir un ordre d'idée de ce que doit être cette indemnisation. C'est vraiment important. Alors, ça impose, et c'est difficile, une certaine forme de patience pour les victimes alors qu'elles sont déjà atteintes, qu'elles sont mal, qu'elles veulent je les cite, tourner la page. Ça, c'est important, tourner la page. Mais parfois, il vaut mieux un processus un tout petit peu plus long, mais une indemnisation qui est juste et qui, du coup, est bien acceptée, qu'un processus rapide, bâclé, on ne prend pas en compte la victime et qui, au final, laissera une amertume, une frustration et ce sentiment qui est difficile derrière à revenir dessus, hein, qui est le sentiment d'injustice. Voilà.
Merci pour ces précisions, Maître Aïe, je voulais aussi réagir.
Oui, moi, je voulais rebondir aussi, effectivement, je rejoins Blandine, effectivement, sur la notion d'individualisation. Et moi, je vais le mettre aussi en perspective avec le domaine que je fais, et notamment l'agression, les agressions sexuelles. Moi, je vais vous dire, sur un même fait, c'est-à-dire qu'on a eu un agresseur dans un train, il avait agressé de la même manière 3 victimes, les mêmes attouchements, les victimes ont subi strictement les mêmes faits. On a une indemnisation sur les 3, la première 27 000 euros, la deuxième 32, la troisième 84. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut individualiser parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes conséquences. Même fait ne veut pas dire même conséquence.
Ouais. Merci pour ces rappels. Dans une précédente émission avec les avocats pénalistes, on parlait de l'individualisation de la peine, de l'individualisation des indemnisations. Merci à toutes. Le message est très clair, très fort et unanimement porté. Maître Blandine Horton, d'ailleurs, nous avons reçu maintenant des questions pour vous.
Allons-y.
Alors, une femme nous a envoyé un mail en nous disant qu'elle avait accouché dans un hôpital public en décembre 2024, que son accouchement s'est très mal passé, que le travail a été long et douloureux, que la sage-femme a débranché le monitoring et n'a pas appelé le médecin à temps malgré l'évolution manifestement défavorable du travail. Son fils est né par voie naturelle mais présente des séquelles neurologiques importantes. Elle nous indique « Je souhaite engager la responsabilité de la sage-femme et de l'hôpital. Comment dois-je procéder ?»
Alors, ce qu'on appelle hein, les accidents de naissance, la formule est un peu malheureuse, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Ce sont des histoires extrêmement difficiles et douloureuses parce que la victime est le nouveau-né et que les conséquences peuvent être extrêmement graves. Là, votre auditrice évoque des troubles neurologiques dont son enfant resterait atteint. Je pense aussi, parce que j'ai beaucoup d'histoires comme celle-ci dans mon cabinet, beaucoup de dossiers d'accidents de naissance où le travail est très très long et où l'équipe médicale, alors chacun est individuel, hein, mais où l'équipe médicale ne prend pas la décision en temps utile d'une césarienne et où l'enfant, pendant ce temps de travail bien trop long, va présenter une souffrance fœtale, une anoxie, et au final va naître, sauvé, c'est déjà une bonne chose, mais avec des conséquences neurologiques extrêmement graves qui font que sa vie ne sera jamais celle d'un enfant qui aurait dû avoir une vie normale. Donc les conséquences peuvent être extrêmement graves et là, votre auditrice cite des troubles neurologiques, il y a effectivement souvent aussi des lésions de plexus brachial, ce genre de choses, dont il est légitime de solliciter une indemnisation parce que la victime, la très jeune victime, c'est sa vie durant qu'elle va devoir subir ces séquelles. Alors en termes de responsabilité, votre auditrice évoque la possibilité, enfin évoque son désir d'engager la responsabilité de la sage-femme et de l'hôpital. De manière générale, si l'accouchement a eu lieu dans un hôpital public, ce sera nécessairement la responsabilité de l'établissement hospitalier qui sera engagé. La sage-femme étant une salariée de cet hôpital, sa responsabilité personnelle, alors sauf hypothèse extrêmement grave que je ne cite pas de faute détachable du service public, etc., mais c'est très marginal, c'est vraiment la responsabilité du service public hospitalier qui doit être engagé. En responsabilité médicale, en tout cas, ma pratique est celle-ci. J'ai un temps, quand j'étais jeune avocate...
Vous l'êtes encore, maître.
C'est gentil à vous, Sonia. Ça fait 20 ans que j'exerce.
Vous êtes très jeune.
Quand j'étais jeune avocate, j'avais encore l'illusion de me dire, après tout, la responsabilité médicale, c'est comme tout régime de responsabilité, pourquoi pas, dans certaines hypothèses, envisager des règlements amiables. Donc, on écrit à l'hôpital, donnez-moi les coordonnées de votre compagnie d'assurance, etc. La compagnie d'assurance va missionner l'un de ses médecins conseils pour qu'on ait une phase d'expertise qui est un préalable obligatoire et nécessaire. Bon, j'en suis un peu revenue, pourquoi ? Parce que dans les règlements amiables, et notamment avec les établissements de santé, c'est très, 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 long. C'est-à-dire que souvent, on dit une procédure judiciaire, c'est long, on n'a pas tort. Mais les règlements amiables, et notamment avec les établissements de santé, sont extrêmement longs. L'avocat a beau être très bon, très compétent, il n'a pas de pouvoir d'injonction pour obliger la compagnie d'assurance de l'établissement hospitalier à répondre. Et donc, tout cela peut prendre beaucoup de temps. Je pourrais dire aussi, on va dire que je serais mauvaise langue, mais pas tant que ça, que les médecins conseils des compagnies d'assurance sont pas toujours les plus objectifs, voire les plus compétents. Ça reste entre nous, évidemment. Bon, le règlement amiable avec en responsabilité médicale, c'est pas la panacée. Donc, ce que je pourrais suggérer, peut-être, si je devais rencontrer cette dame lors d'un rendez-vous à mon cabinet, c'est de commencer la procédure par un référé judiciaire. C'est-à-dire, on saisit en l'espèce le tribunal administratif, parce qu'il s'agit bien d'un établissement public, donc c'est le tribunal administratif qui est compétent, pour obtenir la désignation d'un expert qui organisera une réunion d'expertise à laquelle la victime, son fils, seront présents. Bien sûr, meilleur conseil à lui donner, accompagné de qui ? D'un avocat spécialisé et d'un médecin conseil. Et souvent, les avocats spécialisés ont des réseaux, des médecins conseils avec lesquels ils travaillent habituellement et qui sont donc de confiance également. Donc, peut-être première démarche, aller voir un avocat qui ensuite va orienter la victime vers un avocat spécialisé. Elle sera ainsi assistée à cette réunion d'expertise. On aura un rapport d'expertise qui va se positionner sur la qualification de l'accident médical. Est-ce que effectivement c'est un accident médical fautif? Auquel cas, quand on a ce type de rapport d'expertise, pourquoi pas envisager par la suite de revenir à un règlement amiable. La victime, son avocat, on est fort avec une expertise judiciaire. Et à ce moment-là, la négociation peut s'envisager dans de meilleures conditions. Et si la négociation ne permet pas une indemnisation juste des préjudices, nous disposons d'une expertise judiciaire qui va nous permettre de poursuivre la procédure devant le tribunal au fond afin d'indemnisation des préjudices. Mais encore une fois, extrême vigilance au moment de l'expertise pour une juste évaluation et extrême vigilance ensuite dans le cadre du processus de négociation pour que l'indemnisation soit individualisée. J'ai presque envie de dire plus encore s'agissant d'une victime jeune où il sera question d'indemniser des préjudices de vie, hein, quelles seront les perspectives professionnelles de cette victime, de cette jeune victime avec des troubles neurologiques, ses besoins de logement adapté, d'accompagnement en termes d'aide humaine, de préjudice scolaire. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment l'indemnisation de toute une vie et de tout un projet de vie par la suite.
Merci pour toutes ces précisions. Nous nous quittons quelques instants pour un moment musical avant de terminer notre émission avec mes invités du jour. À tout de suite. Oh, there's a song that God only knows and it's keeping me dancing. Nobody here knows how the melody goes, but it's keeping me dancing. Oh Lord, here I go. Get the highs, but why the lows? They set me up with all these souls, and I watch them fall like dominoes. Too long I've been on my feet, need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees, and I pray my heart don't miss a beat. But here I am, and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over? Oh, there's a song that God only knows.
l'Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous êtes bien sur l'émission Tous les droits, aujourd'hui consacrée aux droits de la responsabilité médicale et droits du dommage corporel. Et nous terminons cette émission avec les deux dernières questions de nos auditeurs adressées à Maître Heurton. Une femme encore nous a écrit en nous indiquant qu'elle avait accouché par césarienne dans une clinique privée, qu'elle a été victime à cette occasion d'un choc anaphylactique. Elle a engagé une action judiciaire à l'encontre de l'obstétricien et de la clinique. Un expert a été désigné et il a conclu un taux d'incapacité de 30%. Il conclut également que le dommage qu'elle a subi résulte d'un accident médical non fautif. La question de cette auditrice, est-ce que cela signifie que je ne vais pas être indemnisée ou est-ce que je vais l'être? Et si oui, rapidement.
Ah, donc il y a encore une fois deux questions dans votre question.
Tout à fait.
Est-ce qu'elle va être indemnisée rapidement? Alors, de ce que je comprends là de la question de votre auditrice, c'est qu'elle a déjà engagé une procédure, j'espère bien accompagnée, bien assistée, et qu'elle dispose d'un rapport d'expertise judiciaire qui dit que le dommage qu'elle présente, donc des séquelles en rapport avec un choc anaphylactique, doit être qualifié d'accident médical non fautif, donc ce qu'on appelle également couramment d'aléa thérapeutique. Je l'ai dit en introduction, en responsabilité médicale, alors il y a des tas de régimes spécifiques d'indemnisation, mais il y a quand même deux grandes catégories d'accidents médicaux que sont les accidents médicaux fautifs et non fautifs. S'il est fautif, l'indemnisation doit se faire par le responsable et par son assureur, l'établissement hospitalier, la clinique privée le cas échéant. Et s'il s'agit d'un accident médical non fautif, il faut rassurer votre auditrice parce que elle a le droit également à une indemnisation de ses préjudices. Alors je suis peut-être un peu rapide. En fait, l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs se fait dans tous les cas, quelle que soit la gravité du dommage, c'est-à-dire la gravité des séquelles que vous allez conserver en rapport avec l'acte médical non accompli conformément aux données acquises de la science. Si vous êtes victime d'un aléa thérapeutique, d'un accident médical non fautif, il faut, pour que vous puissiez prétendre à une indemnisation, c'est la loi du 4 mars 2002 qui a innové en la matière, hein. À l'époque, sous réserve de détails jurisprudentiels qu'on ne va pas développer, mais à l'époque et donc avant 2002, on n'indemnisait que les accidents médicaux fautifs. Ce qui veut dire que c'est le législateur, par la loi de 2002, a fait une faveur, entre guillemets, aux victimes en leur accordant le droit à être indemnisés des aléas thérapeutiques, des accidents médicaux non fautifs. Mais c'est une faveur encadrée, limitée, puisque pour prétendre à cette indemnisation, il faut que votre dommage en rapport avec l'aléa thérapeutique présente un certain degré de gravité. Ce degré de gravité, il dépend de certaines évaluations d'experts. Le critère principal, même s'il y a des critères alternatifs que vous étudierez avec, qui doivent être étudiés avec un avocat, hein, parce que l'idée c'est vraiment de rentrer dans les critères d'indemnisation. Mais là, de ce que je comprends de votre auditrice, c'est que son taux d'AIPP, d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, est de 30%. Donc elle a le droit à indemnisation parce que l'un des critères de recevabilité, c'est d'avoir un taux d'AIPP de 24%. On est donc dans le critère, elle a le droit à une indemnisation au titre de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime. J'ai entendu que l'acte médical en cause s'était déroulé dans une clinique privée, ce qui veut dire que ce sont les juridictions judiciaires qui seront compétentes, au contraire de votre première auditrice dont on a évoqué la question tout à l'heure, et qui relevait des juridictions administratives. Je fais une mini parenthèse. Et c'est une réalité, l'indemnisation, parce que au final, une fois qu'on a déterminé le régime de responsabilité, on parle d'indemnisation. L'indemnisation devant les juridictions judiciaires, et ce n'est pas simplement ma pratique, je pense que mes consoeurs vont me le confirmer, l'indemnisation devant les juridictions judiciaires est meilleure que devant les juridictions administratives, même si pourtant, les juridictions sont censées appliquer les mêmes principes d'indemnisation. Allez comprendre. Voilà, donc votre auditrice, elle est rassurée, elle sera indemnisée, qu'elle soit vigilante avec ses conseils sur l'évaluation des préjudices en rapport avec cet aléa thérapeutique.
Bon, merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on aborde beaucoup de notions avec ces questions. Donc il y a une distinction entre établissement privé, et établissement public quand on veut aller sur le terrain judiciaire. C'est deux ordres de juridiction différents, mais vous, vous intervenez devant les, deux juridictions.
La responsabilité médicale est scindée entre ces deux ordres juridictionnels, administrative et judiciaire. Il y a des positions de principe qui sont concordantes entre les deux ordres de juridiction, et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins concordantes, mais quand on est avocat spécialisé en droit de la santé, on intervient évidemment devant ces deux ordres juridictionnels.
D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Une nouvelle question adressée par un auditeur qui a été opéré de la hanche dans un CHU, donc un établissement public, qui a été victime d'une infection nosocomiale. Il précise que c'est un staphylocoque doré au cours de son hospitalisation. Il a dû être réopéré sous anesthésie générale. Il poursuit encore son traitement antibiotique. Il ne peut plus travailler, il est très affaibli. Et il nous indique, d'après les informations que l'on m'a communiquées, je dois saisir la CRCI. Pouvez-vous me le confirmer et m'indiquer les démarches à suivre pour obtenir la réparation de mes préjudices? Qu'est-ce que la CRCI?
Alors, la CRCI n'existe plus déjà.
Ah, c'est réglé.
Mais on trouve encore ce terme sur Internet, oui, hein, si vous cherchez. On parle de CCI. Ce sont les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Alors, on va reprendre la question dans l'ordre.
Oui.
D'abord, votre auditeur vous dit, je suis victime d'une infection nosocomiale. Alors, effectivement, les infections nosocomiales, on les appelle aussi les infections associées aux soins. Elle bénéficie d'un régime d'indemnisation spécifique et quelque peu favorable aux victimes. En responsabilité médicale, le principe, c'est qu'on doit prouver la faute. Hein. Alors souvent, les victimes disent, mais c'est le pot de fer contre le pot de terre, on peut pas. Si, bien sûr qu'on peut, quand il y a faute, on le démontre et il y a faute. Les infections nosocomiales, c'est donc un régime un peu plus favorable dans le sens où nous n'avons pas à prouver la faute. Par exemple, le défaut d'asepsie, on n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter l'infection, c'est une faute, etc. On n'a pas à prouver ça. Il faut simplement prouver effectivement le caractère nosocomial de l'infection. Une fois ceci fait, il y a un régime d'indemnisation spécifique qui s'applique, qui est une responsabilité de plein droit. C'est-à-dire que à partir du moment où on a démontré le caractère nosocomial de l'infection, la responsabilité de l'établissement de santé, et ce qu'il soit public ou privé, est engagée de plein droit. Alors, votre auditeur ensuite vous dit, on m'a dit de saisir la CCI. C'est une des possibilités, ce n'est pas la seule. La CCI, c'est un dispositif spécifique qui, là aussi, a été créé par la loi du 4 mars 2002, qu'on appelle la loi Kouchner. C'est un système d'indemnisation, on va dire, hybride, mi-amiable, mi-administratif, allez, même pas mi-judiciaire, mais voilà, plutôt amiable. Quand vous saisissez la CCI, un expert, un collège d'experts va être désigné. L'avantage, parce qu'il faut quand même que j'accorde quelques crédits à ce dispositif, l'avantage, c'est que l'expertise est gratuite. Donc, vous avez une expertise, effectivement, qui est faite et qui est gratuite. Moi, je vous conseille, même si je me répète, d'être assisté à cette expertise, parce que le processus CCI qui se veut amiable, quand vous regardez sur Internet et sur leur site, c'est facile, gratuit, rapide. C'est pas si facile que ça, c'est pas tout à fait, voilà, et c'est pas si rapide que ça non plus. Donc, il peut y avoir quelques avantages au dispositif CCI, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients que le temps de votre émission ne me permet pas de développer alors que vraiment j'aurais des choses à dire. Donc, la CCI, c'est possible, c'est pas la seule possibilité, que votre auditeur le sache. Des procédures judiciaires poursuivies par un règlement amiable sont envisageables. En responsabilité médicale, ce type de stratégie fait ses preuves. Rien n'est à exclure, mais encore une fois, tout est individualisé. Donc, un bon encadrement, un bon accompagnement, des conseils d'un avocat permettront de choisir la procédure la plus adaptée. Mais là aussi, finalement, votre auditeur doit être rassuré. Infection nosocomiale, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prétendre à une indemnisation.
Donc, sur le principe, une indemnisation individualisée, c'est encore mieux s'il est notamment assisté d'un avocat.
Également, voilà. Et sur la procédure, à voir.
et sur la procédure à avoir. Bon, merci pour toutes ces précisions. Moi, quand même, quand je vous écoute parler, je note qu'il y a quand même une maîtrise de la matière. Et encore une fois, compte tenu de la complexité en matière, voilà, de compétences territoriales quand on va aller judiciaire, des instances qui existent, la CCI, on avait parlé de la CIVI plus tôt. Enfin, c'est pour moi, je trouve que c'est l'un des domaines les plus techniques. Et je là encore une fois, ça a une vocation pédagogique. Cette émission, j'invite tous les auditeurs ou les auditeurs qui sont entourés de personnes qui peuvent être victimes de ce type d'accident de la vie ou de ce type d'agression, voilà, d'aller systématiquement se rapprocher d'un conseil, ne serait-ce que pour une consultation, parce qu'on reçoit aussi dans le cadre de consultations, lorsque les problématiques se présentent ou avant de prendre des décisions sur un engagement de discussion amiable ou sur le terrain judiciaire, les avocats du barreau du Val-d'Oise sont à votre disposition. Le barreau a un site internet où vous pourrez retrouver les coordonnées de l'ensemble des avocats intervenants et notamment ceux soit spécialisés, soit ayant pour activité dominante les matières que nous avons traitées ce jour dans le cadre de cette émission. Je vous remercie toutes les trois pour votre expertise et votre temps. Est-ce que vous auriez en quelques secondes un dernier message à adresser aux auditeurs? Maître Aïche.
Eh bien, je dirais effectivement à vos auditeurs, effectivement, n'hésitez pas, ne craignez pas, ne craignez surtout pas les avocats, et notamment les avocats du Val-d'Oise.
C'est gentil. Nous sommes des amis pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Maître Delphine Borgne.
Ben merci pour cette émission et puis de pas hésiter effectivement à aller consulter, comme vous l'avez rappelé, même une consultation juridique, un rendez-vous. Enfin voilà, c'est toujours c'est important.
Merci. Et Maître Horton.
Oui, mais je ne vais pas répéter ce que disent mes consoeurs, mais simplement aussi peut-être de dire aux victimes de qu'elles ont le temps, parce que parfois je reçois des victimes qui 5-6 ans après n'osent pas consulter, mais en fait elles ont aussi le droit d'avoir ce temps-là pour faire cette démarche. Voilà.
Merci, merci à vous trois d'avoir été les invités de Tous les Droits, une émission par vous et pour vous. Je recevrai ainsi le premier lundi de chaque mois des avocats du barreau du Val-d'Oise qui répondront à toutes vos questions, parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les Droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée et excellente semaine. IDFM Radio, le média valdoisien. La foule qui pue la haine.
oreilles, raconte alors les fois où je t'emmène au body. T'aurais l'air bien conne s'ils savaient les pleurs et les cris. Oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte. Et je l'aime mort. Et dans mon film on est si beau. Regardez-nous jouer Roméo et se maudire en silence. Hey, je l'aime mort. Et dans mon film on est si beau. Regardez-nous jouer Roméo et se maudire en silence. Et quand rien n'ira plus, tu souriras quand même. Ouais, quand rien n'ira plus, je m'inquiéterai. Amour, 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 ouais. Amour, 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 ouais.
IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour, c'est Jacqueline Voraz sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matins de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Virginie Voraz, du lundi au vendredi à 6h45 dans l'instant bien-être. Je vous donnerai des astuces et conseils au naturel pour votre santé et pour booster votre morale. Du lundi au vendredi, l'instant bien-être sur IDFM.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
On se donne rendez-vous chaque lundi à partir de 22h avec moi-même Vince dans l'émission Positive Vibration Time pour un voyage musical qui prend son départ dans le ska jamaïcain pour arriver aux New Roots et au dub. Par le biais du format vinyle, je vous ferai découvrir des morceaux connus ou tombés dans l'oubli. Les dernières sorties d'albums et de singles, des exclusivités, des invités d'exception prêts à vous faire découvrir leur univers artistique. Grâce à des interviews et des lives, vous pourrez plonger dans les coulisses de leur création. Positive Vibration Time, tous les lundis de 22h à minuit sur IDFM Radio 98 FM.